On a vu 12 juges, 12 petits gouverneurs, mais on voit que c'est pas partout, c'est à différentes places dans les juges. Donc c'est pas tout arrivé en même temps et c'est pas tout à la même place. Donc ça donne une idée de, ok, on a vu. Puis la semaine passée, non, il y a 3 semaines de ça, il y a 2 semaines de ça, il y a 2 semaines de ça. Oui, c'est moi. On a vu Juges 18. On a vu que Dan, la tribu de Dan, refusait leur part. Elle dit, c'est trop compliqué. Je fais un petit résumé rapide, hein. 17-18. Donc leur part était supposée être ici environ. Puis là, ils ont été Dan. Oui. Ils ont été en haut. Mais c'était supposé d'arriver ici, selon Josué, selon la répartition. Merci beaucoup. Aidez-moi aujourd'hui. Hein. J'ai besoin d'aide aujourd'hui. Mais ils ont été ailleurs. Et on a vu aussi une histoire de Lévite, chapitre 18 en particulier. Ce que moi j'appelle le mauvais Lévite. Donc, Lévite, c'était un enseignant, il faut bien comprendre. Il avait une job d'enseigner au peuple la loi de l'Éternel. Donc, on voit un ancien, on voit un mot, on a vu un mauvais. Puis on avait aussi un refrain. Est-ce que vous vous rappelez de refrain? Chapitre 17, chapitre 18. Dans ce temps, il n'y avait point de roi en Israël. C'est aussi le premier verset du chapitre 19 qu'on va voir ensemble aussi. Ok? Donc, rappelez-vous de cela. On va voir encore ce refrain-là au chapitre 20.
Mais en regardant cela, je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas l'interpréter à deux volets à mon avis? Mais je vois physique, oui, il n'y en avait pas. Mais il y avait, le vrai roi, il n'avait pas.
Avait dit, ils avaient rejeté le vrai roi.
C'est ça?
Parce que dans Exode 15, 18, ça dit. L'Éternel régna éternellement et à toujours sur eux. Je serai votre peuple. Ils ont rejeté le roi. Et on va voir ça plus tard. Mais si on continuerait un Samuel qui suit les juges, on va voir qu'ils ont rejeté l'Éternel. Un Samuel 12, plus particulièrement, Samuel va expliquer. Il fait comme un retour en arrière avant 1 Samuel 10 pour dire, vous avez rejeté l'Éternel comme votre roi. Et c'est pour ça que l'Éternel vous donne Saül comme votre roi. Donc c'est juste pour montrer qu'il y avait un roi, pas comme qu'eux ils voulaient. Je pense c'est le message qu'on a dans Juges 19. Quand on rejette l'Éternel, automatiquement, on adore autre chose. Donc, je voulais juste vous le montrer clairement. Or, Juges 19 aujourd'hui, c'est, à mon avis, l'un des chapitres les plus immoraux de l'Ancien Testament, dans le peuple de Dieu, particulièrement. Donc, il y en a comme quelques-uns. Donc, le roi Ézéchias, il y a avec Akaz. Mais ça, c'est en Israël. C'est un peu différent. Ils sont rebelles. Mais pour ceux qui se disent peuple de Dieu, oh, c'est terrible. C'est terrible, cette histoire-là. Il y a aussi avec le fils de David, le viol de Tamar, qui est terrible aussi. Mais Juges 19 est une histoire, quand on comprend bien, vraiment dégueulasse. J'aimerais qu'on lise en 4 sections ensemble. OK? Il y en a qui fait 3. Moi, j'en fais 4. J'aurais pu en faire 5. Mais c'est trop. OK? Donc, j'aimerais que quelqu'un qui puisse lire versets 1 à 9. Juste pour commencer, s'il vous plaît. Ça commence par plusieurs choses. Il y a plusieurs petits détails que j'aimerais voir. Dans le chapitre 17, on voit un Lévite qui sort d'Éphraïm, un Lévite de Juda qui va en Éphraïm. Et en chapitre 19, on voit un Lévite d'Éphraïm qui va en Juda. C'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas du tout le même. Ok, c'est un peu. Ok, il y a des. Oh, ok. Pourquoi que l'auteur nous précise là, de Lévite, 1 chapitre 19, dans son épilogue, deux histoires de Lévite. Donc 17-18 parle d'un Lévite avec Dan, et 19-20-21 parle d'un autre Lévite, mais avec une autre tribu. Comme on va voir. Parce que cette histoire, on commence au chapitre 19, la semaine prochaine, ça va être 20-21. Mais juste que vous preniez en considération que l'épilogue parle, il y a deux personnages principaux. Lévite, Lévite. Au verset 2, ça dit sa concubine. Sa concubine, je ne sais pas si vous connaissez le terme concubine, ce n'est pas juste une femme comme ça là. Ok, c'est une femme. Donc on va voir plus tard, surtout au chapitre 20, on va voir sa femme. Ok.
C'est pas autre que sa femme.
Non. On ne sait pas s'il y a d'autres femmes. On présume, parce que d'habitude, quand on a une concubine, on a une première. Dans les textes bibliques, c'est ça qu'on a comme situation. Mais ce n'est pas obligatoire, parce qu'une concubine, c'est une femme, mais sans avoir payé la dot, sans avoir donné un salaire pour... C'est plus qu'un engagement, c'est la dot, était considérée comme un mariage. Comme un peu font les Africains maintenant. Donc, c'est pour le temps, parce que la femme change de lignée. Elle ne va plus travailler pour la famille de son père, elle va travailler pour la famille de son mari. Donc, un genre de dédommagement, un genre de récompense. Ta bille et ta fille, voici pour. Elle ne va plus travailler pour toi, voici. Et là, maintenant, elle va m'appartenir. Donc, la concubine, sans, une femme mariée sans dot, on l'appelait une concubine.
C'est
sans dot, mais c'est une femme.
Mais dans notre culture, il n'y a pas de
non, dans notre culture, non.
C'est une autre femme en dehors de la femme qu'on a mariée.
À vrai dire, non. Pas nécessairement. Ça peut être ta première femme, en termes très stricts.
Monogame,
ça pourrait être, oui. Comme en Afrique et en Asie, il y a des concubines, il y a des épouses. Donc c'est juste pour montrer, elle n'a pas été payée pour, elle n'a pas eu de dot. Son père n'a pas eu un cadeau de remerciement. Mais dans la compréhension biblique, on n'a jamais vu une concubine qui n'était pas la deuxième. Est-ce que tout le monde... Est-ce que vous voyez? Elkana a eu une concubine. Exactement. Il y a eu des femmes et des concubines. Comme Elkana, il y a eu sa femme, Anna, et sa concubine. J'ai oublié son nom là. Ok, Jemina, ok. Donc, il y a toujours une dans la Bible, femme et concubine. Mais le terme...
Pour certains hommes.
Hein? Oui, pour certains hommes. Mais les concubines, et il y avait aussi des concubines de première femme aussi. C'est ça aussi qu'on oublie là. Parce que c'était vraiment une épouse. Dans le texte, on ne voit pas que le Lévite a d'autres femmes. Dans toute l'histoire, dans les trois chapitres qu'on va voir... Il n'y a pas nommé d'autres femmes. Donc, mais ça se pourrait. Mon interprétation à moi. Oups, excusez-moi. Mon interprétation, je pense que le Lévite avait d'autres femmes. Mais j'ai aucun argument pour le soutenir.
Moi, mon argument, c'est parce qu'on parle de concubine.
Oui, mais ce que concubine, ça veut dire femme, ça veut dire épouse aussi. Mais sans dot, sans avoir payé à dot.
Pour moi, c'est la même chose. Parce que quand tu as une femme, un engagement, etc., je pense, dans notre culture, la loupe, et la vie que tu t'en vas ailleurs, quand tu as une concubine.
Ah, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est juste comme. Parce que, à dire, je l'ai beaucoup compris avec mes beaux. Moi, j'ai des belles familles congolaises. Eux, ils font encore la dot. Et quand que ma belle-sœur s'est mariée, mais dès qu'elle fait la dot, elle était épouse. Mais son frère, qui n'a pas fait la dot, lui a une femme, c'est sa concubine. Il appelle sa concubine. Il n'appelle pas sa dot, il n'appelle pas son épouse. Oui, oui, sa première femme. C'est là que j'ai fouillé pour vérifier bibliquement et j'ai compris que ça ne veut pas nécessairement dire deuxième femme. Par contre, dans la Bible, on retrouve seulement des concubines, alors que ce Lévite-là, comme deuxième femme. C'est pour ça que l'argument, ce que tu dis, est plausible, Isaac. Est-ce que tu comprends? C'est plausible parce que dans la Bible, c'est... Non, je sais, mais ce que je veux dire, je vous donne la compréhension, qu'est-ce qui n'est pas biblique et qu'est-ce qui est dans la Bible. Parce que c'est le seul texte qu'on voit qui n'a pas d'autre femme. C'est le seul. Il n'y a pas d'autre. Toutes les autres ont des femmes et des concubines. Sauf celui-là, qu'on ne voit pas. Donc, je suppose, je ne suis pas sûr que c'est une femme de deuxième rang. OK? Soit son père avait pas assez d'argent, soit qu'elle ne valait pas beaucoup pour la famille. Elle a été donnée. Mais le texte dit, tu as dit qu'elle fut infidélité. Dans l'original, c'est se prostituer. C'est fort comme terme.
Moi, je ne trouvais pas en fille. C'est quand même un état d'infidélité.
Oui, oui.
Elle a dit infidèle, elle a dit fille infidèle. Elle avait cet état.
Cet état d'infidélité. Et il y a une raison pourquoi elle avait cet état d'infidélité, parce qu'elle n'était pas à la maison. Donc elle était encore infidèle. Contre lui. Elle retourne chez son père. Maintenant, la loi disait que s'il y avait adultère, c'était lapidation. Lévitique était assez clair sur ça. Donc, on voit dans Lévitique, il y a des lois. La seule loi qui est lapidation, c'est meurtre, une loi contre Dieu ou une loi liée à la sexualité dans le cadre du mariage. Parce que pour Dieu, ces trois choses-là sont sacrées. Ça démontre les conséquences d'un péché, même si tout péché est amené à la mort, mais il y a des conséquences différentes. Pourquoi son père ne l'a pas lapidé? On ne sait pas. Mais ça fait 4 mois qu'elle est chez son père. Elle est partie. Donc Ephraim est en haut, et parce que son père en Juda. Donc ça m'a posé la question. Mais il n'a pas. Donc, est-ce que c'est parce que elle était de deuxième rang et que son mari l'a maltraitée, ou bien elle est partie coucher avec d'autres femmes ou d'autres hommes? L'histoire ne nous dit pas. Il y a beaucoup de commentateurs qui vont dire infidélité, c'est parce qu'elle a quitté. Quitté son mari, donc elle est infidèle. Elle a quitté Fédéral, donc elle est infidèle. Il y en a d'autres qui vont dire, c'est parce qu'elle a sûrement couché, parce que le terme est fort. Se prostituer, c'est vraiment le terme, là. Donc, le terme est très fort, comme pesant, là. Littéralement, il est pesant, ce terme-là. Je voulais choisir lequel entre les deux. Mais ce qu'on voit dans le texte, c'est qu'on voit que le mari se lève.
Et il est appelé le mari.
Le mari.
Contrepartie de votre femme.
Exactement. Exactement. Tu comprends? Mais plus tard, on va voir sa femme, mais dans le chapitre 20. Mais là, le mari se lève. Il va aller parler à son cœur pour la ramener. Waouh! Ça, c'est un mari aimant qui est prêt à pardonner son épouse.
Qui l'a quitté.
Donc, on voit littéralement un acte de bonté, d'amour. À vrai dire, c'est exactement ce que l'Éternel fait avec nous. Qui vient nous chercher pendant que nous, on est infidèles. Ce Lévite-là, je l'appelle le bon Lévite. Comparément à chapitre 17 et 18, le mauvais Lévite qu'Isaac nous a parlé il y a 2 semaines. Non, mais je vais vous faire rappeler ça, hein, okay, ces deux Lévites-là. Mais est-ce que tout le monde voit? Et il y a une petite notion aussi de, il amène 2 ânes. Ce qui n'est pas commun. Qui montait sur les ânes? Les princes et les rois. On a vu Charles de Béra qui dit qu'on monte sur nos ânes. On voit Jaïr et ses 36 qui gouvernent des villes. On voit Amnon, c'est très court, mais dit 70 ânes pour tous ses enfants et ses petits-enfants. Juste dans les livres des juges, je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Je n'ai pas besoin de parler de Jésus. Je n'ai pas besoin de parler de la prophétie qu'on a vue avec Zacharie. Je n'ai pas besoin d'aller tout cela là. Juste dans le livre des juges, juste dans le contexte des livres des juges, on voit que ceux qui avaient des ânes étaient élevés. C'était pour des dignitaires. Donc il est prêt à la traiter comme dignitaire. Non, ça ne fait pas ça. Jésus tout craché.
À Jérusalem. Il n'est pas vu comme ça.
Non. Oui, mais la prophétie était vue comme ça. Non, c'est fort ça.
C'est un fort parce qu'on voit l'idée dans le contexte qui est rabaissant dans le cas de Jésus, alors que pour Dieu c'était le bon.
Exactement. C'est les choses inverses. Hein.
Wow.
Donc moi je vois beaucoup la grâce, juste dans le verset 3, dans 1, 2, 3 là. Dans 2 et 3, je veux dire, je vois beaucoup la grâce de Dieu pour nous. Comment ce bon Lévite est un exemple pour nous. C'est important à se comprendre parce que le reste de l'histoire va se mêler pour nous. Surtout en français et en anglais. Ça va se mêler. Mais je veux juste montrer son caractère au Lévite que moi je trouve qui est bon. Il vient gagner sa femme. Et il vient avec pour l'amener sur les ânes. Ok, il y a un autre contexte que j'ai failli oublier de dire. Les femmes n'étaient pas respectées dans ce temps-là. Ils étaient au même rang que les animaux. Les femmes étaient au même rang que les animaux. C'est dans le temps de Babylonien que les femmes ont plus de valeur.
Est-ce qu'on peut citer la
même
chose pour Déborah?
Oui, mais Déborah était ailleurs. Déborah avait un grand rang, mais parce que les gens lui ont. C'est les gens qui l'ont amené. C'est les gens qui venaient à elle. Elle ne régnait pas des bras comme les autres. Elle ne voulait pas régner. Elle même dit, hey, tu vas perdre. Ils vont venir à une femme à cause que tu ne l'as pas. Donc, elle n'a pas cherché, elle. Donc, je vous dis ça parce que ça ne se fait pas qu'une femme monte sur un âne. Un serviteur ne monte pas sur un âne et une femme ne monte pas sur un âne. C'est seulement les princes et les maris qui montent sur un âne. Les propriétaires et les princes et les dignitaires. Là, il la traite comme une reine. Il veut la traiter comme une reine. Parce qu'on ne sait pas si elle va dire oui. Mais il veut la traiter comme une reine. Quatre à neuf. Le Lévite se fait avoir un accueil des plus décrit dans la Bible. Cet accueil, versets 4 à 9, je n'ai pas trouvé d'autre accueil comme celui-là. Imaginez-vous, 5 jours à fester. 5 jours. Donc, le Lévite vient prendre sa femme. Et le gars, le papa, il dit, non, je veux que tu restes. Je te nourris, je te lave, tu manges, tu fais toi 5 jours. C'est comme t'as dit, là, moi, je veux retourner chez moi, là. Et l'accueil de Bethléem, c'est waouh, non? Quand c'est vous quelqu'un qui vous garde à rester et qui veut vous rester, mais qui prend soin de vous comme un roi, ça, c'est un accueil. Mais qui était aussi commun dans ce temps-là, mais pas 5 jours par contre. Pas 5 jours, 1-2 jours maximum. Ça coûte cher, hein? Ils ont fait soyer pendant 5 jours. Donc, je ne sais pas si c'est à cause de la grâce du pardon que le Lévite démontre à sa fille, qui aurait dû être lapidée. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a la reconnaissance, parce qu'il veut gagner le cœur de son épouse. Je ne peux pas répondre à ces questions-là. Mais quand même, c'est quand même quelque chose, 5 jours. Êtes-vous tous d'accord?
Oui.
L'accueil, elle est... Hein, Dodo?
Mais dans ce salon, on voit des fêtes qui durent autant.
Oui, en général, c'est 5 à 7 jours, en général.
Mais moi, je ne les voyais pas comme ça.
Comment tu voyais?
le beau-père peut profiter d'une nuit. C'est ce que j'ai toujours vu comme ça.
Explique-moi.
Il veut le forcer à rester de plus en plus longtemps. Parce qu'il veut peut-être une protection, ou il veut quelque chose. Pour moi, l'accueil du beau-père, c'est bien, il me reste une autre journée, mais j'ai l'impression de la manipulation. Pour moi, c'était de la manipulation.
Pour, parce qu'il y aurait peur. Il y aurait peur que sa fille soit lapidée.
Sa fille continuait cette vie qu'elle faisait avec son mari, puis lui, il en profitait.
Peut-être.
Je ne sais pas, mais moi,
je. Ouais. Non, peut-être, Dodo. C'est pas fou, j'ai juste un problème. Si mon père aurait profité, il aurait demandé une dot.
Oui.
Elle ne serait pas sa concubine, elle serait son épouse. Il n'y a pas l'air de quelqu'un qui est dans le besoin. Pour faire des fêtes comme ça, ça coûte cher. Ça, c'est clair qu'il veut retarder. Tu comprends? Ça, c'est clair qu'il veut retarder. Un peu comme la femme de Jacob. Ah, je perds ma mémoire. D'Isaac, excusez-moi. Rebecca et son père là, et son frère là-bas et son père,
ouais.
J'ai oublié les Touelles, t'es comme moi, non pas les Touelles, ça c'est dans Proverbe 29, excuse-moi, mais, les parents de Rebecca là, t'es qu'elle reste, c'est elle qui dit non, je partirai, t'es, mais si on voit cette, je comprends, mais mon bémol c'est il aurait demandé une dot, tu aurais profité.
En prenant beaucoup de temps, je suis dans 50 ans, là. Je veux dire, peut-être que je ne suis pas en train de justifier l'infidélité de la femme qui est partie, là. Mais un lévite par défaut a beaucoup d'argent.
Non, il se fait vivre.
Ouais. Puis là, le stress qu'il peut être avoir là-dedans, là, son père allait de pas mal de bien lundi, là.
Mais c'est, il faut comprendre que 5 jours de festoyité, ça coûte. Ça coûte. Je sais pas, mais ça coûte. Donc, ce gars, il doit être bien. C'est une déduction.
Oui,
c'est ça. Ok, c'est une déduction. Là. Mais je veux dire, la précision des faits. Il n'y a pas comme ça. L'autre qui est un petit peu moins, c'est Esther, la reine Esther. Les 3 jours avec tous les détails, c'est la reine Esther. Comme tout, on a une fête de 5 jours, une fête de 1 mois. On sait que c'est immense et grandiose. Mais ça, des détails pour quelqu'un. Donc c'est quelque chose. Donc ça veut dire qu'il est ici. Il est vite, puis il descend jusqu'ici. C'est un bon voyage. La ligne là, j'ai juste demandé au AI de faire une ligne. Ok, j'ai aucune idée. Le texte ne dit pas par où sont passés. D'accord? On va revenir après sur le reste. Je renais la diapo. Donc, le bon Lévite, à mon avis, poursuit sa femme comme Éternel a poursuivi son peuple. Dans toute l'histoire des juges qu'on a lue, de chapitre 2 à chapitre 16, on voit que l'Éternel poursuit son peuple.
Tout le long.
Et que continue. Et c'est comme ça que Christ nous poursuit aussi. Je vois ça comme un bel amour. Et ça, c'est malgré qu'elle soit partie pendant 4 mois. Et il y a quelques commentaires, je n'ai pas vérifié la source, ok, mais qui disent, dans les lois des Juifs, à partir de 3 mois, c'est considéré comme une désertion, du coup. Donc, adultère.
Est-ce que c'est une désertion
synonyme d'adultère? Oui, le commentateur. Okay, que, et j'ai pas vérifié la source, j'ai pas été voir si dans leur loi, si c'était vraiment écrit ça. J'ai pas vérifié. Mais c'est ça qu'ils mentionnent. Donc, ils mentionnent surtout le 4 mois de désertion est tellement précisé. Pourquoi il présente le 4 mois? C'est pour démontrer qu'il était vraiment en faute. Elle ne devrait pas partir, quitter son mariage.
Le potentiel est là pour l'adultère.
Exactement, oui. Mais elle va chez son père en même temps. Ça t'entendait, elle aurait été chez un amant. Non, il y a plein de petits détails qui font est-ce que c'est vraiment sexuel est-ce qu'elle a vraiment couché avec quelqu'un d'autre? Ou non? Je ne pense pas que c'est là qui est le centre que l'auteur veut nous amener. Il veut nous amener à l'attitude du Lévite, à mon avis. Et la différence de l'autre Lévite. Mais si on commence à lire le 10 à 21, s'il vous plaît. Bon, il y a beaucoup de choses. On aurait pu séparer ce texte-là en trois parties si on voulait. Mais je vais essayer de faire un wrap-up parce que je ne pense pas que c'est le summum de ce que l'auteur veut nous emmener. Yébus était appelé, c'est Jérusalem. Donc vous voyez, on a un indice de l'écriture de cette histoire-là. Ça veut dire que c'est après la conclusion de... C'est après la... Non. Non, c'est après que David a conquis la ville. Parce que David l'a renommée Jérusalem. Ville de paix. Donc ça nous donne un petit peu pour dire, ah, l'auteur là, il y a beaucoup d'années qu'ils ont passé. Ok? Donc il y a soit mise à jour, donc ça nous donne, parce que Yébus, c'est David qui a conquis Yébus. Mais Yébus, exactement. Et le Lévite dit, ah non, on n'ira pas là. Ce n'est pas un de nos siens. Mais j'aimerais qu'on puisse lire les quatre passages. On a le temps? J'arrive, mon frère. Tu poses une très bonne question. Mais il dit, là, Yébus de Benjamin. C'est une très bonne question, si tu me permets. Attends, pendant que tout le monde, les autres, cherchaient un passage chacun. Attends. Pour te répondre à Isaac rapidement, Yébus, là, il est séparé en deux. Dans le temps des juges, il était à Benjamin. Il va passer dans le temps de Juda, par la suite, avec David. La ville, oui, parce que la ville est séparée en deux. Il est parti Benjamin et parti Juda. Mais elle va passer. C'est pour ça qu'il précise Jébus en Benjamin. OK? Elle est vraiment sur la limite. C'était juste pour que tu comprennes. OK? C'est juste pour comprendre. Tu as raison. C'est pour ça que des fois on dit Benjamin de Juda, ça nous dit qui a le... qui a le pouvoir sur la ville. Encore aujourd'hui, c'est une ville qui est séparée. Hein? Maintenant, c'est en trois. Maintenant. OK? Donc, c'était prédit. C'est Christ, la parole de Dieu est parfaite. Donc, mais oui, c'est une très bonne question. On a eu un concours à Noël chez les Bissons sur si Jérusalem appartient à qui. Mais chacun, vous voyez, j'ai dit, mais vous n'avez pas fait votre cours d'histoire biblique, vous autres, là? Il y a eu des changements de traitement, mais à la fin, elle appartient à Juda. Mais il y a toujours une partie de Benjamin, une partie de la ville qui appartient encore à Benjamin dans les textes bibliques. Exactement. Ils ont fait un élargissement vers Juda parce que Benjamin ne prenait pas soin. Mais j'aimerais qu'on lise ces quatre textes-là, Nombre 33, 55 et 56, pourquoi que le mari ne va pas à Jébus. Et c'est important de comprendre. Et le péché qu'il y a, surtout qu'on va voir la semaine prochaine. Nombre 33, 55 et 56, un autre Deutéronome 7, les quatre premiers versets, un autre Deutéronome 20, 16 à 18, et un dernier Juges 2, 1 à 3. OK. OK. Tu dis quoi? Nombre? Tu peux-tu chercher pour moi, mon frère, Deutéronome 20, s'il te plaît? Vas-y, Isaac. 55, 56.
Oui, c'est bon. Mais si vous ne cherchez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez sur mon corps des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Nous serons vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de l'être.
Donc, si le Lévite avait ce texte-là en tête, ok, je n'irai pas chez Yobus. Non, c'est juste que s'il y avait cette extrait, on peut dire, ah, Ephraim n'a pas fait leur job. Ephraim n'a pas envie de traiter.
Le contexte dans le 33, c'est
Ephraim, c'est ça? Non, 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 c'est Ephraim qui dit, si vous ne chassez pas les autres pays, les autres, les Jébusiens, c'est Yébus. Les Jébusiens, c'est Yébus.
Ok, ça depuis dans l'histoire de Genèse.
Mais c'est depuis nombre. C'est depuis nombre. Si vous ne chassez pas, ils vont vous être une épine dans votre pied. OK? Donc ça se peut qu'ils pensent à ça. Oui. Deutéronome 7. Waouh. Donc l'Éternel a encore rappelé de les détruire. Waouh. OK. Juste avant de rentrer, chapitre 20 est un peu comme avant de rentrer dans le Canaan. C'est comme la deuxième partie du grand discours de Moïse avant de rentrer. Répète encore. Quoi? Ils sont sourds ou quoi? Ils sont-tu sourds? Peux-tu lire encore, s'il te plaît? Juge.
Oui. Un envoyé de l'Éternel monta de Gibeath-Joktim. Il dit, je vous ai monté hors d'Égypte. Je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne prêterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leur autel, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne chasserai point devant vous, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège.
Ouf! Éternel est fidèle, non? Il avait averti au moins trois fois. Et je vous ai pris les passages que Zébusier revenait en passant. J'ai fait exprès. Il y a d'autres passages encore.
Oui, mais il y a aussi c'est pour ça qu'il avait mentionné Genèse. Parce que quand il a fait la promesse.
Abraham. Je sais, j'ai juste. Il fallait que je choisisse. Il fallait que je choisisse. Il y a beaucoup d'autres textes encore là. Il est souverain. Exactement.
C'est quand leur crime sera à leur
terme. À leur terme. Donc j'avais ce texte-là aussi, mais je n'ai pas voulu.
Parce que
c'est deux, trois fois dans Genèse, à part ça. Donc c'est juste pour vous montrer, avec raison, le bon Lévite, il va pas aller dans une des villes qui n'est pas les siens. Avec raison. Ce n'est pas les siens. Donc c'est pour ça qu'il dit non, allons vers nos siens. On ne va pas aller chez les étrangers. C'est plus sécuritaire. C'est juste plus sécuritaire. C'est pas chez nous. C'est pas notre peuple. C'est pas nos frères. Donc c'est un bon Lévite. Il ne fait pas de compromis. Donc il est parti de haut au sud chercher son épouse pour retourner à la maison de l'Éternel, à son travail. Donc, il a quitté son travail pour son engagement qu'il avait avec cette femme-là. Sa concubine, que je pense, c'est un deuxième rang. Mais je vous ai dit tous les arguments pour et contre, là. Okay? Parce que moi, quand ce n'est pas très clair bibliquement, j'aime donner tous les arguments. Puis, il va chercher sa femme, qui n'a pas payé de dot, mais que son père ressemble à avoir de l'argent. Et il retourne. Non, on ne va pas arrêter. On va aller. Hey, il y a même deux ânes, là. Sa princesse. Il va pas, on va pas aller une place chez les étrangers. On va aller chez nos siens. Hey, c'est plus sécuritaire. Come on. Il a fait tout ce voyage-là. Est-ce que vous voyez? Les gars, ils semblent être bien cadrés, là. Il veut tenir son travail, mais. Ça, c'est un homme de valeur. La place dans la ville, c'est là que tout le monde allait, tous les visiteurs, que tout le monde était. Et dès qu'il y avait quelqu'un, on te posait la question, tu es où, d'où viens-tu. Dans la Bible, vous allez voir ça partout, jusque dans le Nouveau Testament. C'est une valeur forte, l'hospitalité. C'est Israël. Très forte. À cause du temps, je ne vais pas vous montrer comment depuis Genèse, on devait être hospitalier. Tu recevras l'immigrant, tu recevras le voyageur. Et même ceux qui ne sont pas non-juifs, qui sont non-juifs, là, tu vas les recevoir, tu vas prendre soin. Encore plus des siens. Il faut juste comprendre la vision, le peuple d'Israël, comment il était construit. Et ça, c'est depuis Exode, là, que l'Éternel est sévère sur ça, sur ceux qui viennent avec vous. Il y avait des Égyptiens, il ne faut pas oublier, hein, qui se comportaient avec Israël. Eux, ils étaient exclus, hein, du peuple. Ils n'étaient pas comptés. Ils devaient prendre soin des Égyptiens qui venaient.
Qui ont décidé de les suivre.
Qui sont venus, que leurs enfants sont venus dans le peuple, mais pas les parents, là. Donc, c'est important de comprendre, c'est une place publique. C'est là que si tu vas à une place pour te faire recevoir, tu vas là. Là, il n'y avait personne. Contrairement à Bethléem, le beau-père, donc il y a comme un genre de caractéristique. Personne. C'est un vieillard qui revient des champs. D'où vient le vieillard encore? Le vieillard, il vient de quelle ville? Non. Le vieillard, il vient de quelle ville qui le reçoit? Oui, c'est l'étranger qui le reçoit. Mais il vient de quelle ville? Il vient de quelle région? Oh! Encore Ephraïm! Il habite à Gibea, à Benjamin, mais il y a un autre Ephraïm. Qu'est-ce que l'auteur va entrer de nous... Ça fait trois Ephraïm. Quand il est dans le texte, au chapitre 19. Ça fait trois fois, là. Deux fois, je veux dire. Chapitre 17, l'autre qui va à Ephraïm, et lui qui vient d'Ephraïm, mais il trouve une autre personne qui vient aussi d'Ephraïm aussi. Oui. Ben oui, il vit là, ben, quelque part là, ok. On ne sait pas qu'il vit en Ephraïm. Et le gars, il vit à Gibea. Il ne vit pas chez eux. Mais il l'accueille. Mais personne de la place l'accueille. Donc c'est un étranger des Benjamites qui l'accueille. Donc il va dire, on ne s'arrête pas là. Non, c'est une ville étrangère. On va chez nos siens. Ils vont plus loin, Gibea. Ils vont à la place publique. Personne ne les accueille. On comprend. Tout le monde va là, mais personne ne les accueille. Je ne sais pas si vous voyez.
C'est pas possible parce qu'on parle. C'est un trop Israël. Et le commandement de recevoir l'étranger, c'est pour nous aussi.
Oui. Sauf quand que si tu n'obéis plus à l'Éternel. Parce que Yébus, qui était sourd dans ce temps-là, sourd Benjamin, n'a pas été vidé, n'a pas été éliminé. Ça fait quoi un peu de levain dans une pâte, que Jésus nous dit? Ça fait quoi une pomme pourrite dans un panier de pommes? Un peu de péché dans une assemblée, ça fait quoi? Je mets une pause à cela. Ah ben, oui.
Tu dis que c'est un col là, juste combien de... Alors, j'ai bien compris au départ, c'est ces peuples-là que les Aïs devraient chasser.
Oui.
Ils prennent leur territoire.
Oui, tout éliminé, hein, toute vie.
Oui. Si je comprends bien, c'est ce territoire-là qui a été appelé Jérusalem par la suite.
Oui.
David. C'est ça?
Okay. J'ai oublié que 2 Samuel quoi là, j'ai oublié.
Non, ça n'est pas ma question parce que dans le contexte, c'est comme, ok, c'est un nom qui apparaît, et puis on a Jérusalem, mais moi c'est cette ville-là. En fait, pour moi, c'est la promesse de l'Éternel qui s'est accomplie. Là. Le Jébusien, il a donné à son fils la ville,
oui.
Il l'a donné à son
Et c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'elle revient à Judas après. Ben, en partie.
Oui, mais regarde. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que Jérusalem, c'est la cité de Dieu.
Oui.
Cette ville-là qui était au Jérusalem avant.
Exactement. Exactement. Mais ils devaient tout éliminer. Mais ils n'ont pas fait. Exactement. Mais ils n'ont pas fait. Ils l'ont toléré. Tantôt, j'ai un petit tableau à vous montrer de qui a été obéissant à cet ordre des trois textes qu'on a lus ensemble et qui l'a pas été. Pour comprendre la gravité des petites nuances que je vous donne, parce qu'il y a une gravité qui se bâtit. Pas avoir obéi à Dieu, pas avoir toléré le péché, pas avoir accueilli comme on devrait accueillir. Notre cœur change. Mais ça va un petit peu plus loin. Un vieillard d'origine d'Éphraïm l'accueille. Personne dans la ville n'a voulu l'accueillir des Benjamites. Il faut un étranger de la tribu pour le recueillir. Il le reçoit dignement. Il lave les pieds, il mange, il boit.
Il nourrit même ses animaux.
Exactement. Puis, alors qu'il y avait tout déjà. Donc on voit, c'est un bon gars. Entre guillemets, mais je ne l'appelle pas bon. Je vois qu'un gars qui est différent des Benjamites, par contre. Si l'étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène au milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Et je suis l'Éternel, votre Dieu. Ça, c'est clair, non? Êtes-vous d'accord? Donc, il y a comme un contraste entre la ville de Bethléem et les Benjamites. Mais ce n'est pas fini. Là vient l'apogée, ce que j'appelle le crime de le crime et la débauche de Gibéa, qui pourrait lire 22 à 26, s'il vous plaît. Verset 22 à 26. Situation vraiment dégueulasse. Dépourvu de sens. Il y a plusieurs ressemblances avec Genèse 19. Des voyageurs arrivent dans une ville et se trouvent sur la place publique. Un vieillard leur offre l'hospitalité. Des hommes pervers encerclent la maison. Genèse 19. La scène, à mon avis, sert à montrer la profonde, là j'ai oublié de souligner et de mettre en gras. J'ai oublié, c'est un oubli. La profonde corruption morale de la ville. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Comment qu'une ville des siens font ce que l'Éternel a déjà jugé une autre ville, avait dit, si on comprend bien, une région. Les deux grandes villes dedans. Mais ce n'était pas juste les deux grandes villes. Si on lit bien là, c'est plus que les deux grandes villes. C'est plus que Sodome et Gomorrhe en passant. C'est une région qui incluait ces deux grandes villes-là. Et ils font la même attitude. Mêmes actions. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils viennent de rentrer dans Canaan. Qu'est-ce qui s'est passé? Prenez garde que le pays ne vous rejette. Si vous le souillez, comme il aura rejeté les nations qui étaient avant vous. Ah, excusez-moi, qui peut lire pour moi? J'ai mal lu. Prenez garde.
Que le pays ne vous rejette, si vous le souillez, comme il aura rejeté les nations qui étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront l'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple.
Moïse qui dit ça de la part de l'Éternel. Gibéa est devenu aussi corrompu que les sept nations avant qu'eux arrivent. Gibéa est rendu littéralement comme une nation païenne, comme les Cananéens. Il n'y a aucune différence.
Quand tu rejettes l'Éternel, c'est ce qui arrive.
Exactement.
La raison, tu perds la raison.
Tu perds la raison.
Sens, tu perds la raison.
Non, tu perds complètement la raison.
Oui.
Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui, c'est la même chose qu'on vit aujourd'hui. J'aurais dû l'écrire ça. Notre morale a été corrompue. On fait les choses bonnes, mauvaises, les choses mauvaises, bon. Notre conscience est partie. Ils l'ont pas accueilli, hein. Ils l'ont vu. Je voulais vous montrer juste cette première partie-là avant. Ils l'ont vu. Ils l'ont pas accueilli. Maintenant, il dit, faites sortir. Et le terme que vous avez, pour que nous connaissons, est un bon terme. Mais si ce terme yada, littéralement, c'est pour avoir une relation sexuelle intime, les connaître intimement, personnellement, chacun d'entre eux. Littéralement, un viol collectif.
Combien de temps après la conquête?
On ne sait pas.
Environ.
On pense que c'est moins d'une génération. Avec les indices du texte hébraïque, c'est à peu près moins. Quand ils sont rentrés, après Josué, on pense vraiment que c'est une à deux générations maximum à cause des indices du texte original, mais on ne sait pas pour de vrai.
Donc, Phinéas, le fils de Léazar, le fils de Aaron, il était le sacrificateur.
Oui.
C'est lui qui avait fini, terminé la plaie.
Ouais, Béa est mort, lui. Lui est mort.
Qui?
Phinéas.
Phinéas?
Il est où?
C'est lui, sacrificateur qui se présente.
Après, au chapitre 20, tu parles.
Donc, dans ce temps-là, c'est pas longtemps après la conquête.
Non, c'est pas longtemps, c'est une ou deux générations maximum. Donc, on pense, pas maximum. Oui, mais cette histoire-là, comme dit mon frère, c'est pas tard.
Non, c'est
ça. Sanson, c'est tard. Ça, c'est pas tard. C'est une à deux générations environ. Mais ça, on va voir ça la semaine prochaine, au chapitre 20.
Ça veut dire que chronologiquement,
c'est juste voir comment est-ce que la corruption a ralenti rapidement.
Oui.
Il peut se manifester rapidement dans le cœur.
Ouais. Donc on ne sait pas si c'est une ou deux, mais Phinéas il vivait encore.
Ma question c'est par rapport à ce que, c'est par rapport au commentateur, qui parle de ces chapitres qui sont annexés.
Maintenant je pense pas qu'ils ont été annexés. Je pense qu'ils ont été là, mis là, pour il y avait la déchéance. Le monde n'a pas fait qu'est-ce que Dieu l'a demandé. Juge 1, 2, 3 à 16, comment l'Éternel a recherché son peuple contre ses ennemis. 17, 18, 19, 20, 21, comment internement. Donc une partie, c'est vers l'extérieur, les ennemis de l'extérieur.
C'est la même chose que tu dis. C'est juste que quand on les voit comme des annexes, disons, c'est des documentaires qui sont ajoutés comme. C'est des informations additionnelles.
Oui, additionnelles, oui.
Additionnelles, mais qui couvrent toute cette période-là.
Oui, exactement.
Mais quand tu lis le texte dans Juge, tu vois, c'est comme si tu penses à une chronologie.
Ouais.
Parce qu'ils sont à la fin de la cuisine de Juge, tu penses que c'est à la fin des Juges.
Oui, mais non. C'est comme la Bible. La Bible n'est pas écrite de manière historique. Nos placements de nos livres, ce n'est pas par histoire, c'est par regroupement de thèmes. Et ça, c'est un thème. Pour dire, oui, il y a eu un problème, il y a eu des ennemis extérieurs, mais il y a des ennemis intérieurs.
En réalité, les deux dernières histoires, ou les événements, c'est pour montrer que dans tout ce temps-là, comment était corrompu le cœur de l'homme.
Exactement. Et ça nous démontre la corruption, le péché de l'intérieur, quand on n'oublie pas Dieu. Et c'est ce que je pense que l'auteur veut démontrer grandement.
Ça, quand maintenant on comprend que quand dans les dans la période des 12 juges qu'on a parlé là, le peuple faisait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel.
Exactement. Et ça revenait. Parce que c'est pas à cause de l'extérieur. Le problème principal, il est interne. Exactement. Donc c'est grave. Qu'est-ce qui se passe là? C'est extrêmement grave. Maintenant, ok. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est grave?
Ah ouais. Le texte dit tout. C'est criminel.
C'est le mot criminel va venir au chapitre 20. Il va revenir au chapitre 20. Mais si je vous dis, c'est grave. Ça ressemble beaucoup à Genèse 19. Maintenant, il y a comme un questionnement. Je mets un peu de piment. Qui est l'homme? Le Lévite ou le vieillard? Donc, littéralement, au verset 25, on lit l'homme. Et c'est vraiment l'homme. Et j'allais chercher, j'allais vérifier. L'homme saisit sa concubine et sort vers eux dehors. Ça, c'est presque mot pour mot.
Ben, tu es le Lévite parce qu'il parle aux Lévites.
Moi, je pense que c'est le Lévite.
Parce qu'il parle aux Lévites.
Ah, mais il l'aimait, non?
Au 24, il m'a reçu ma fille vierge ainsi que la concubine de cet homme.
Qui passe? On sait que c'est l'homme de la maison.
L'homme de la maison.
Mais on ne sait pas qui fait l'action au verset 25. Exactement. Et c'est vraiment écrit. Mais en fait, c'est que c'est sa concubine, la concubine du mari, du Lévite, ou le Lévite, c'est sa concubine. Dans les deux termes, c'est du bon. Ça fonctionne.
Non, parce que là, les phrases exactes, l'homme, c'est sa concubine, la concubine.
Non, mais la concubine.
Sinon, il aurait dit c'est la concubine.
Non. Tu peux dire ça. C'est la bonne chose. C'est comme pour sa fille. C'est la bonne construction. Ça veut dire les deux. Ça peut dire les deux. Ah, j'ai vérifié avec des c'est pour ça que j'ai... Oui.
Voici, j'ai une fille vierge. Oui. C'est
vieillard. Oui, le vieillard.
Okay. Et cet homme, en parlant du Lévite, il pointe le Lévite, a une concubine.
Oui. Continue. Oui, donc lui, il parle avec les gens dehors.
Je vous les amènerai.
Et la concubine. Donc, mais ça veut dire le contexte, c'est. Moi, je pense que c'est le vieillard parce que je trouve que le Lévite aimait beaucoup sa femme. C'est juste à cause de l'histoire, le grand contexte. Mais au niveau grammatical, c'est les deux. Ok? Les deux est capable. Au niveau grammatical, ça peut être les deux. Donc, dans l'original, c'est bien traduit en français, c'est bien traduit dans toutes les langues que j'ai lues. Ok? Mais j'ai juste lu en anglais, français et créole. Ok? C'est bien traduit. Et ça peut dire les deux. Oui?
Et si tu regardes au verset 27, et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais la femme, sa concubine,
oui,
était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil.
Oui. On arrive à ce verset-là, mais ça n'enlève pas le fait que c'est qui là, ici.
Mais comme tu disais tout à l'heure, une femme était. Le
second
rang était comme un animal.
Oui.
Alors.
Et la maison.
Il voulait sa femme et il voulait sauver sa vie. Il dit bon, ben, je t'offre mon animal
préféré. Ben, à vrai dire, ça pourrait. Mais j'ai lu un commentaire que j'aimerais vous dire. Après ça, je vais approcher rapidement. Parce que les maisons, dans le temps, étaient au rez-de-chaussée, étaient les bêtes. C'était les tables. Au premier étage était le propriétaire. Et les invités étaient au toit de la maison. Donc les femmes, les esclaves, les animaux étaient au rez-de-chaussée. Donc si ce n'était pas pendant la nuit, Le Lévite, il dort en haut. Il ne dort pas avec sa femme. Je l'ai lu, je voulais vous la partager. Je n'ai pas de preuve de cela. Okay. Okay. C'est comme quand on voit les deux Égyptiens qui vont à Jéricho. Ils vont sur le toit. Donc, le premier temps était juste pour les animaux et les esclaves.
Les habités en haut.
Ouais, en haut, en top. C'est ça que... C'est sous le toit de la maison. Ben oui. Là où ce que je veux amener votre attention, et Paul nous le ramène, en donnant l'exemple d'Israël, au chapitre 10, en continuant, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » On voit Bethléem de Juda, on voit une hospitalité, on voit un repas festif, on voit une vie familiale, on voit, oh, ça va un peu plus loin, Saul, il vient de où? Oui, je me suis trompé. Ça et ça, c'est le côté. Ok, excusez-moi. Ok, oui, excusez-moi. Ça et ça, c'est le côté, ok? Une erreur. Ok? Excusez-moi, ok? Saul vient de Gibea, hein? Ok? Aïe, j'ai manqué ça. Ok? Et ville de rébellion, que dit Osée, le prophète Osée? Référence à Gibea. À Gibea, il y a un rejet d'hospitalité, il y a la violence, il y a le viol, il y a le roi Saül, les villes de rébellion. Mais la naissance du Messie, à Bethléem. David, il vient d'où? C'est les deux seuls rois qui viennent de Bethléem, la Bible en passant. C'est les deux seuls. Et si vous regardez l'histoire de Saül et de David, et vous comptez le nombre de fautes qui est rapporté par l'auteur, c'est à peu près pareil. Tous les deux ont vécu 40 ans aussi. Ils ont régné 40 ans aussi. Oui. Non, mais il ne venait pas de Bethléem, la ville de Bethléem.
Oh, tu vois, de Bethléem.
Oui. Excuse-moi, les deux derniers, c'est, il y a un mélange. Il faut que j'inverse.
De la ville, pas de l'État.
Oui, de la ville. Okay. Oui. Non, ils venaient tous de... De Juda. Mais tout de Juda. Sauf la ville de Bethléem, il y avait juste deux dans la ville. Très rapidement. Donc, qui peut lire verset à 30? Quatre versets. S'il vous plaît.
Le matin, sur la nuit, se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais la femme, sa concubine, était tendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, lève-toi et allons-nous-en. Mais il n'y eut point de réponse. Alors le mari l'a mis sur son âme et partit pour aller chez lui. Il entra dans sa maison, prit le couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux, qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dire, jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les Israélites sont montés du pays d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez.
Donc, retour à la maison, la femme se le met des seuils. Juste très rapidement, c'est un signe de soumission avant de les mettre sur le seuil. Vous allez lire ça dans 1 Samuel, le seuil, c'est là que c'est comme l'entrée. Donc, t'enlèves tes souliers avant d'arriver sur le seuil. Elle a ses mains. Signe de soumission en général à son Seigneur. Ça veut dire que le maître de la maison, le vieillard, devait la protéger. Il ne l'a pas fait. Certains pensent que c'est un appel à la justice à son Seigneur, à son mari. Donc, il part. Moi, je pense que le vieillard a mis au courant ce qui s'est passé au mari. Parce qu'on ne sait pas là, mais au chapitre 20, on va savoir, il connaît l'histoire. Verset 28, il prend sa femme, met son âne, qui voulait l'honorer. Hein. Il coupe ses membres. C'est comme faire prendre conscience de la gravité. De qu'est-ce qui vient juste de passer. Il est venu pour avoir le cœur, pour prendre le cœur de sa femme, l'honorer et rentrer à la maison pour servir son Dieu. Il n'a pas voulu passer dans une ville d'étrangers. Il est entré dans ses siens, il y a eu pire. La pire atrocité connue jusqu'à présent, il l'a eue. Réaction, prenez la chose à cœur, consultez-vous. C'est comme vous dire, c'est très sérieux, mes frères. Vous avez les faits, maintenant, parlez, maintenant, agissez. Voilà ce que ça veut dire. Parce que la même chose pourrait vous arriver si vous partez en voyage. Donc, pour nous chrétiens, quand on reste dans nos péchés, ça, c'est une rébellion. David est parti dans son péché. Il s'est repenti. Elle est morte. C'est pour montrer la gravité. C'est pour saisir.
C'est lui qui l'a tué,
non? Non, elle n'a pas tué. Elle était déjà morte. On va voir ça au chapitre 20, la semaine prochaine. On va voir.
Le texte qu'on voit là,
oui.
C'est comme si c'est lui qui l'a tué.
Non, c'est juste qu'on ne dit pas qu'elle est morte. On dit juste pas qu'elle est morte.
Il n'y a pas de réponse.
Ouais. Donc, il a mis sur son âne, il est rentré à la maison. Dans le texte, on va voir la semaine prochaine un détail, ok, qu'ils l'ont tué. Ok. On va voir. Mais je vais juste vous dire, semaine prochaine, on va le lire. Ok. On devient, quand on n'adore pas l'Éternel, mais des idoles, on devient comme les idoles dans notre cœur. Psaume 115, leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, des oreilles et n'entendent point, elles ont un nez et ne sentent point, elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point, elles ne produisent aucun de son dans leur gosier, et ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Que juste. Ah, c'est trop bon. Les idoles des nations sont de l'argent et elles sont l'ouvrage des mains. Elles sont une bouche et le parcours. Il répète encore, mais c'est pas le même psaume. Psaume 135 là maintenant. Elles ont des oreilles n'entrent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Mais, maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui croyez, vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel, que de Sion, que l'on bénisse l'Éternel, qui habite à Jérusalem, louez l'Éternel. On est appelé à louer l'Éternel.